Si vous voulez vous tourner donc dans Daniel 5, on va commencer en lisant au premier verset. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Donc, le roi Belshazzar, on est ici en présence du, on va dire, c'est le petit-fils, un des petits-fils du roi qu'on avait vu dans les chapitres précédents de Daniel, Nebuchadnezzar. Il y a eu, à la mort du roi Nebuchadnezzar, il y a des passations de pouvoir où différents rois vont un petit peu prendre la suite. Et l'homme qui arrive finalement au pouvoir, qui s'appelle Nabonide, va se marier avec une des filles de Nebuchadnezzar. Et son fils est donc ce roi Belshazzar. Et c'est le dernier roi babylonien. Et on va voir que dans ce chapitre 5, on a la description de la fin du royaume de Babylone et l'histoire autour de ça. Et donc, ce roi Belshazzar organise un grand festin pour ses hauts fonctionnaires, au nombre de 1000. Et on voit que c'est une grande fête avec beaucoup de vin, beaucoup d'alcool et... On peut un petit peu s'imaginer la scène, enfin avec un peu comme ce qui peut transparaître dans la culture, un petit peu dans les films ou dans les images qu'on a de ce genre de festin grandiose des rois antiques. Et on a notamment dans le livre d'Esther, il y a des indications aussi sur ce genre de fête et c'était vraiment des choses où ces rois avaient des périodes dans leur règne où ils étaient en période d'expansion, où ils étaient tout le temps partis de la capitale, où ils allaient conquérir des nations, des territoires. Puis ensuite, ils revenaient et ils pouvaient passer des très très longues périodes où c'était, en gros, c'était festin sur festin. Dans Esther, dans le premier chapitre d'Esther, il parle d'un festin de 180 jours. C'est vraiment... Quand ils n'étaient pas en train de conquérir ailleurs, ils revenaient puis ils faisaient la fête, quoi. C'était... Il n'y avait pas de... Pour ces rois, c'était du... Soit on était en expansion, soit on était en train de profiter de notre puissance et de notre opulence sans la moindre retenue ou... oui, modération. Et donc, on voit qu'ils boivent beaucoup et que, en buvant beaucoup, ils vont être amenés, comme pour nous et pour les gens autour de nous de nos jours, à faire des choses un petit peu bizarres, un petit peu des choses qu'ils n'auraient pas l'habitude de faire s'ils n'avaient pas bu autant. Dans la Bible, comme de nos jours, l'alcool, c'est quelque chose qui nous pousse à faire des choses stupides, qui nous pousse à faire des bêtises, qui nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Et donc le roi, en buvant, se met à penser, on voit ici, c'est verset 2. Il se dit, tiens, on va aller chercher toutes les coupes et les belles choses qu'on a ramenées, que mon grand-père avait ramenées de Jérusalem. On va s'en servir pour notre fête et ça va être bien. C'est peut-être aussi dans son esprit une manière de moquer le Dieu d'Israël, pour montrer encore une fois, il y avait toujours cette question de fierté. Et on va voir plus tard dans le texte qu'il y a un problème de fierté chez ce roi. Et en plus, il va se servir de ces ustensiles qui étaient réservés à Jérusalem pour l'adoration de Dieu, pour faire la fête et en même temps pour louer les dieux babyloniens, les faux dieux. On voit ici les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre qui sont décrits verset 4. Et ces actions et ce manque de respect, de révérence pour Dieu et pour le Dieu d'Israël va amener des conséquences graves pour ce roi. Et c'est quelque chose qui réapparaît dans ce livre plusieurs fois. On a déjà vu avec Nebuchadnezzar, quand il y a un manque de respect ou de reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Il y a une certaine, on va dire, un temps d'attente, un temps où Dieu tarde dans l'application de son jugement. Mais ici, dans ce chapitre 5, on va voir qu'on est arrivé au moment où Dieu va juger la nation babylonienne pour tout ce qu'elle a fait de mauvais. Alors d'après, ici, dans ce qui est d'autant plus surprenant dans cette situation, c'est que d'après ce qu'on sait de l'histoire et des récits historiques autour de la Bible, il y a des historiens, Xénophon et Hérodote, qui donnent des récits de la chute de Babylone face à l'empire perse. Et c'est que, a priori, plusieurs jours avant ces événements, le roi de Perse, Cyrus, avait mis en déroute l'armée babylonienne dans une autre partie du territoire, en fait, et que donc cette armée de l'empire médo-perse était en train d'arriver à Babylone, et ils étaient au courant de ce qui se passait. Ils étaient en train de faire la fête malgré l'arrivée d'une armée massive à l'extérieur. Et ça montre, on avait parlé la semaine dernière, on a parlé de la cité de Babylone, de la puissance de Babylone, des murailles et de l'apparence vraiment imprenable de Babylone, et on va en reparler, mais on avait dit qu'il y avait des murailles qui faisaient 100 mètres de haut pour entre 20 et 30 mètres de large, que c'était vraiment quelque chose qui était, a priori, une fois qu'on avait fermé les portes, même si on avait une grosse armée, ça servait à rien, on pouvait pas les attaquer. Et donc on a l'impression ici que vraiment ce roi Belshazzar a un problème, on va dire un excès de confiance, et se dit de toute manière c'est pas grave. On a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur des murailles, on ferme les portes et on va être tranquille, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on est le grand empire babylonien, on est pépère, on va continuer à faire la fête. Et on va voir que ça va amener la chute du royaume. Alors ici, encore une fois, on peut noter des parallèles avec ce qu'on voit dans Apocalypse et des images comparables avec ce qui va se passer à la fin des temps, où ici on a un sacrilège qui est commis par Belshazzar, où il utilise des ustensiles qui étaient réservés pour l'adoration de Dieu. Il y a ce sacrilège qui est commis, qui amène en quelque sorte la fin du royaume de Babylone. Et dans le récit qu'on a dans l'Apocalypse, on voit que l'Antéchrist va instaurer un culte, et il y aura ce que la Bible appelle l'abomination des abominations, qui va être une sorte de sacrilège de tout ce qui est les services et l'adoration de Dieu, qui va être commis par l'Antéchrist, qui va s'élever en quelque sorte comme Dieu dans le temple à la place de Dieu, et ce qui va amener le jugement de Dieu et la fin des temps dans l'histoire. Et donc Ça, on va le regarder encore une fois plus en détail dans la suite, mais encore une fois, c'est intéressant tous ces parallèles qu'il y a dans le livre de Daniel. C'est aussi intéressant de regarder ça et de voir un petit peu cette répétition de ce genre de choses qui se passent dans l'histoire humaine. Si on regarde dans la Genèse 11, il y a l'histoire de Babel, qu'on connaît, qu'on apprend aussi à l'école du dimanche, des hommes qui commencent à se réunir, à faire une cité et à se dire on va élever une tour qui va être au-dessus de Dieu, on va être plus grand que Dieu. Et Dieu qui est obligé de venir ici et de rabaisser cet orgueil de l'homme face à son autorité et face à sa puissance. Et c'est un peu un leitmotiv de l'histoire de l'homme, quoi. Il y a toujours cette répétition de l'homme qui s'élève, qui se pense supérieur à Dieu et puis un jugement qui arrive et ils sont rabaissés. Et puis, on a l'impression qu'on en a déjà parlé encore une fois la semaine dernière. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient et qui revient systématiquement. L'homme qui se pense supérieur à Dieu et qui se croit plus grand que Dieu et où Dieu est obligé de venir et de montrer, non. Donc, en tout cas, le roi Belshazzar est en train de faire la fête. Il est bien. Les murs sont épais et hauts. Il est tranquille. Tout va bien. Il est avec tous ces hommes importants qui le révèrent, qui le respectent. Ils font venir les restes pour se rappeler leur conquête et leur autorité et le fait que leur royaume et leur puissance est au-dessus des dieux, même des autres nations autour d'eux, et qu'ils sont tranquilles. Et tout d'un coup, verset 5, les doigts d'une main humaine apparaissent et écrivent sur le mur du palais royal. Et là, ça a dû un petit peu casser l'ambiance de la fête. C'est un peu des récits où c'est un peu difficile. Enfin, parce qu'on lit ça, on le lit vite fait, ça passe bien, mais franchement, enfin, j'en suis à un truc, une main qui apparaît là, qui se met à écrire sur le mur, quoi. Enfin,
c'est flippant.
Il y a un côté. C'est vraiment fou, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Je sais pas à quoi ça devait ressembler. Je me dis que ça devait être assez fou à voir. Si c'était une grande main, si c'était juste une petite main tranquille qui écrivait peinard, ou si c'est... Enfin, la couleur du truc, si on voyait à travers, si c'était... s'il y avait un bout de bras, si on voyait genre... Si c'était coupé net et on voit genre l'os et le... Enfin... Je sais pas, mais... c'est peut-être pas le point le plus important, mais c'est... Et donc, en tout cas, le roi voit cette partie de main. Et là, on a une description qui est assez... Enfin, qui nous fait sourire. Il change de couleur. Ça fait un peu penser aux bandes dessinées, quand il y a genre, un fantôme qui apparaît, t'as le personnage qui devient un peu vert, genre de peur, ou... J'en ai dans les cartoons, là, un peu les trucs...
Dans Daniel 1, verset 7,
dans
1, verset 7, le chef est venu, il avait nommé Daniel Belshazzar. Et là, quand on parle du roi Belshazzar, c'est un nom qui existait déjà.
C'est un nom qui a une signification par rapport au dieu babylonien qui était en quelque sorte Bel, élevé soit Bel. Le dieu babylonien s'appelait Bel. Et donc Daniel a cet autre nom qui est Belshazzar.
Il y avait un roi qui s'appelait comme ça déjà.
Oui, dans le texte original, en fait, il y a une nuance. Ouais, il y a une petite nuance au niveau de l'écriture. Et par exemple, dans certaines traductions, ils l'écrivent en fait dans le français, ils l'écrivent Balthazar, avec un Z. Enfin, encore une fois, c'est un problème où il y a des noms qui sont donnés dans une langue qui n'est pas le français, et on essaie de l'écrire d'une manière qui soit intelligible ou prononçable par le français, dans le français ou dans les langues, nos langues, et on perd des nuances et des petites différences, mais effectivement, Voilà, c'est pas le même. On va dire deux mots un petit peu plus loin à propos de ce roi, hein, mais des sources un petit peu archéologiques et historiques qui nous donnent des détails à propos de lui. Mais dans le texte original, il y a une nuance déjà entre le nom du roi et le nom donné à Daniel. Et donc, il change de couleur, il est terrifié par ses pensées. On se dit peut-être, enfin, je sais pas trop ce qu'il pense, mais les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent les uns contre l'autre. Les jambes là, vraiment l'image du gars qui tremble, qui tremblote, qui arrive, qu'est-ce qui se passe, qui panique complètement. En plus, qui était peut-être à moitié saoul, on ne sait pas. Enfin, qui était vraiment d'un coup, il est pris presque de convulsions. Et il ordonne là tout de suite au milieu de la fête. On peut s'imaginer que tout s'est plus ou moins arrêté. Il devait avoir des musiciens, la fête, des gens qui dansaient et tout. Et puis là, c'est un froid, tout le monde s'arrête, tout se pose. Et là, il crie, il demande à faire venir tous les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Tous les gens qui devraient, a priori, comme on a vu déjà avec Nebuchadnezzar, être un petit peu en contact avec les dieux et devraient pouvoir lui expliquer ce qui se passe, ce qui est en train de se passer avec cette main qui est en train d'écrire sur le mur. Donc il les fait venir et il leur dit « Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Donc il lui dit « Je vais l'élever. Je vais l'habiller de la couleur royale avec le pourpre. Je vais lui mettre un collier en or à son cou. Et il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Alors ici, on va s'arrêter deux minutes pour parler de ce roi, encore une fois, et des ressources archéologiques qui corroborent le texte biblique. Et en fait, jusque dans les années 1900, il n'y avait aucune trace archéologique de ce roi Belshazzar ou Balthazar, suivant comment on l'écrit. Et c'était encore une fois un motif pour dire que la Bible n'était pas vraiment assez précise et qu'il y avait des incohérences avec la réalité archéologique. Et la raison de ces contestations, c'est qu'en fait, à cette époque-ci, ce roi Belshazzar gouvernait, il était en co-régence avec son père, qui était Nabonide, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. Et donc, ce roi Nabonide, dans l'histoire qu'on avait jusqu'au 19e, à la fin des années 1800, c'était lui qui était enregistré comme étant le roi au pouvoir lorsque l'empire babylonien est tombé. Et donc, les gens disent, ici on parle du roi Belshazzar, c'est une incohérence, il n'existait pas, c'est Nabonide qui était roi lorsque l'empire est tombé. Et en fait, il y a eu des découvertes archéologiques à la fin des années 1800, début des années 1900, par des Anglais, qu'en fait ce roi Nabonide était un peu un mystique et au bout de quelques années de gouvernance a décidé de partir. Il a construit un temple, un roi du soleil, un roi d'une autre, c'était un dieu d'une autre peuplade, pas les Chaldéens, les Babyloniens vraiment, et qu'il était parti en fait, et il avait laissé la gouvernance et le royaume, le contrôle du royaume à son fils, mais qu'il était toujours vivant. Et donc il était quelque part dans le nord du royaume, et il s'occupait plus vraiment des affaires courantes du royaume, mais il traînait à s'occuper d'adorer un dieu du soleil. Et a priori, c'est lui qui, apprenant que le roi Cyrus voulait venir attaquer Babylone, est allé à l'encontre avec les armées de Babylone et qui a perdu la bataille quelques jours avant cet épisode. Et donc, une fois que lui est tombé, Cyrus a continué avec son armée, ils sont arrivés à Babylone et ils ont conquis la ville. Et donc, on a en plus, dans ce texte, on voit un détail qui est extrêmement... On voit qu'en fait, c'est extrêmement précis et extrêmement exact. Quand le roi... On se dit, mais... Enfin, mettez-vous à la place. Vous avez le roi et il vous dit... En gros, il veut élever la personne qui va pouvoir lui donner l'explication, il va dire, bon ben, je lui donne tout ce que je peux, quoi. Et on se dit, mais s'il est roi, enfin, c'est quoi cette idée de troisième place? Normalement, enfin, si moi je suis roi, je dis, ben, si, pour élever quelqu'un le plus possible, on se dit, ben, on va élever quelqu'un à la deuxième place, quoi. On va lui mettre juste, moi je suis roi, bon d'accord, tu vas pas être roi à ma place, mais je vais t'élever le plus possible. Et en fait, on voit que le texte, encore une fois, est parfaitement en accord avec la réalité historique, qui est qu'en réalité, Belshazzar était le deuxième du royaume parce qu'il était en co-régence avec son père et que son père, malgré son absence, restait le roi qui, si jamais il décidait de revenir, avait l'autorité. Et donc, il l'élève, il lui dit « Je vais élever la personne en question à la plus haute place possible, qui est la deuxième place du royaume. » Donc, encore une fois, là, on voit que le texte biblique qui a été remis en question, avec les découvertes archéologiques, est toujours réaffirmé et réétabli comme étant extrêmement précis et extrêmement valable, même historiquement et même archéologiquement. Et donc, il promet tout ça à tous ces sages et toutes ces personnes du royaume qui viennent le voir et qui devraient pouvoir lui expliquer ce que la main écrit, ce qui est en train de se passer. Et comme pour Nebuchadnezzar, il n'y arrive pas. Vraiment, enfin, quand on les voit dans ces récits, on se demande à quoi ils servaient, ces gars-là. Parce que dès qu'il y avait vraiment un truc important, ils ne servaient à rien, quoi. C'était... On se dit qu'il devait, enfin, il devait être... Et donc là, on voit verset 9 qu'il fut alors très effrayé et changea de couleur et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Donc il rechange de couleur, on ne sait pas quelle est la deuxième couleur ni la première, mais ils sont encore plus effrayés, ils se disent « Oh là là, je suis vraiment mal, je comprends, enfin, il y a vraiment un problème ». Et quelque part, peut-être, il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je veux dire, il y avait, a priori, d'après ce qu'on sait archéologiquement, il savait qu'il y avait une défaite de l'Empire, qu'il y avait l'armée du roi Cyrus qui était à la porte de la ville. Et ça a dû un petit peu, il se disait, bon, ben, il y a un truc bizarre qui se passe quand même. Là, on fait la fête, on devait être tranquille, et là, il y a cette main qui apparaît. Et on voit qu'ils sont vraiment pris de panique. Voilà, en continuant à lire verset 10. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit « Roi, puisses-tu vivre toujours, ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Donc, on a l'impression ici que Daniel a un petit peu été oublié de tout le monde. En fait, ça, nous, on passe d'un chapitre à l'autre comme ça, mais c'était sans doute entre 20 et 30 ans, entre la mort du... Alors, plus exactement, les gens disent 24, 25 ans, entre le moment où Nebuchadnezzar est mort et où il y a eu passation de pouvoir. Et donc, Daniel est sans doute un petit peu tombé dans l'oubli. Les gens se sont dit, bon, ben, il n'y a plus de... plus vraiment besoin de lui, ou ils avaient d'autres conseillers, d'autres gens importants, et donc il est un petit peu, on voit que Belshazzar, alors ce roi, il devrait savoir, devait sans doute connaître ces histoires avec les interprétations des rêves par Daniel, mais ils ne sont pas au courant, et donc il y a cette reine. Alors on pense que c'était une des filles de Nebuchadnezzar qui vient rappeler à tout le monde qu'il y a un homme dans le royaume qui a la possibilité, qui est vraiment très sage et qui a en lui l'esprit des dieux saints, elle dit, et qu'il a la possibilité et qu'il a dans le passé expliqué les rêves et les énigmes et les questions difficiles. Daniel a eu une sacrée vie. Enfin, on va voir comment Dieu utilise Daniel là dans la fin du chapitre et comment il réagit à la demande du roi. Mais c'est intéressant déjà de voir ce côté où Daniel il est passé par plein d'étapes, puis il est repassé par des états de. Il est déporté, il est prisonnier, après il est élevé à la cour du roi Nebuchadnezzar, après là on a l'impression qu'il est retombé dans l'oubli, on ne sait pas s'il était encore dans une position d'importance dans les ordres des sages ou des chaldéens, là, des sages babyloniens ou pas. Là ici il va être remis dans une position d'importance. Dans le chapitre 6, tout à l'heure, on va regarder les accusations qu'il va subir. Et au milieu de tout ça, on va noter, mais vraiment, Daniel avait une constance dans sa relation avec Dieu et dans sa fidélité à Dieu, malgré les circonstances et malgré l'importance ou la non-importance que lui attribuaient les rois et les gens qui étaient importants autour de lui. Mais sans doute que, il s'est peut-être posé des questions ou c'est. Là, on a vraiment l'impression que personne ne sait de qui il s'agit à part la reine qui était présente qui est revenue rappeler tout le monde qu'il était là, quoi. Et on se dit, mais il a peut-être, enfin, ça devait être difficile pour lui, quoi, de ne plus être important ou de plus être considéré, quoi. C'est toujours un risque. Mais on va voir que Daniel, lui, était satisfait avec les petites choses, avec les petites tâches que Dieu lui demander d'accomplir avec sa relation avec Dieu, et c'est ça qu'il considérait comme étant important. Et c'est bon aussi de le noter parce que c'est important de le voir dans nos vies, que Dieu nous donne différentes saisons, différentes périodes dans nos vies où les circonstances peuvent changer, où notre rôle dans la vie peut changer, notre importance pour les gens autour de nous peut changer, même notre importance peut-être dans l'église ou pour nos amis ou pour nos familles peut changer, peut évoluer, il peut y avoir différentes choses et qu'au milieu de tout ça, Dieu veut qu'on reste fidèle à lui et qu'on reste fidèle avec les petites choses, avec la relation de tous les jours avec lui et pas qu'on se laisse perturber ou gêner par les circonstances extérieures et nos circonstances de vie et nos... peut-être notre influence ou notre rayonnement ou notre effet sur les autres, que ce soit pas ça qui nous affecte ou nous fasse changer avec Dieu. Et à noter aussi une idée là, on en a déjà parlé parce que ça a déjà été dit de Daniel, mais cette idée qu'il y a un esprit supérieur en lui, qu'il y a quelque chose en lui qui est supérieur à ce qui est dans le monde, à ce qu'il y a dans les cours de ces rois. Daniel, quand on lit Daniel, si on prend vraiment à cœur les choses qui sont dans ce livre, et quand on voit le caractère de Daniel, ça peut être par moments une source de découragement, parce qu'on se dit, mais ce gars-là, on a l'impression qu'il trébuche jamais, qu'il est solide, qu'il continue, mais ça doit être aussi un encouragement pour nous, une exhortation, parce que Dieu nous considère de la même manière. On a vu dans l'étude de Galates, dans l'étude d'Actes, que Dieu a déversé, nous a donné son Esprit Saint, qui est cet Esprit supérieur, et que nous l'avons aussi en nous, et que Dieu peut et veut aussi nous utiliser autour de nous, et veut que son Esprit qui est supérieur, et qui, d'après ce que la Bible nous dit, est en nous, ait libre cours dans nos vies, et puisse avoir un effet autour de nous. Et donc ça doit être un encouragement parce que Dieu nous considère comme Daniel. Il veut qu'on alors pas peut-être qu'on soit pas à la cour des rois et qu'on soit conseiller du président, mais qu'il puisse nous utiliser pour avoir de l'effet autour de nous. Et ce qui est bon de noter aussi, c'est que toutes les caractéristiques et tous les fruits et toutes les choses qu'on voit dans la vie de Daniel sont des choses qui sont décrites dans Galates, dans les fruits de l'esprit. C'est des choses, la fidélité, la douceur, toutes ces choses, l'amour, c'est toutes des choses qui sont ce que Dieu veut dans nos vies par la présence de son esprit dans nos vies et par ce changement qu'il veut opérer en nous. Donc, lisons, verset 13. « Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda ? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication, mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la troisième place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu Très-Haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il habitait avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger comme au bœuf et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé, tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Perses, aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Donc on amène Daniel devant le roi. Le roi lui demande si toutes les choses qu'il a apprises à son sujet sont vraies. Et puis il lui fait la même promesse. Il lui dit, si tu es capable de m'expliquer ce que la main a écrit sur le mur, je t'élèverai, je te donnerai la gloire dans le royaume. Et la réponse de Daniel est intéressante et encore une fois... très révélatrice sur le caractère de Daniel. Déjà, il commence en disant « Je ne veux pas de tes présents. » Mais il va lui répondre. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il lui dit « Garde tes trésors, moi je vais lire l'Écriture. » C'est un peu... Enfin, on a l'impression qu'il accorde l'importance juste à ce que Dieu vient d'écrire sur le mur. En comparaison avec ses trésors babyloniens. Et il commence en donnant une leçon d'histoire à ce roi. Il lui dit, voilà, visiblement, tu as oublié tout ce qui s'était passé avec Nebuchadnezzar, ton grand-père. Tu as oublié comment ça s'était passé, comment il s'était élevé, comment sa fierté l'a amené à être abaissé jusqu'à être comme une vache dans les champs. Et ensuite, il lui dit, et toi, tu as fait la même chose, tu t'es élevé, tu n'as pas respecté Dieu, tu adores des dieux en bois et en pierre et en bronze qui peuvent rien faire, et tu as méprisé le Dieu qui tient ton souffle dans ses mains. il a méprisé le Dieu qui était vraiment important, le Dieu qui était vraiment au pouvoir, le Dieu qui donnait vraiment l'autorité aux rois et aux nations. Et là encore, enfin, comme on a vu dans les autres chapitres, cette idée de quelle est l'importance que nous donnons, nous, à Dieu. Dieu qui tient notre souffle dans ses mains. Et donc une fois qu'il lui dit tout ça, qu'il lui rappelle tout, qu'il met tout en contexte, il lui dit voilà ce qui s'était passé avec ton grand-père, toi tu as fait pareil, et maintenant je vais te dire ce que signifient ces mots. Et alors les mots, c'est dans le texte, ça ressemblerait à mene mene, tekel ou parshin, et c'est compter, peser, diviser. Et en quelque sorte, c'est tu as été pesé et trouvé, on va dire, insuffisant. Et donc ton royaume va être divisé. Alors on peut faire plusieurs remarques par rapport à ces mots et à ce jugement qui est prononcé sur Belshazzar. Déjà, il y a cette idée de compter, cette idée de Dieu qui compte les jours. Et dans un des commentaires que je disais, il faisait remarquer que nous, on compte en faisant augmenter les jours de nos vies, les années. Et Dieu, en quelque sorte, il a un décompte qui est inversé, quoi. Il sait quand ça arrive à terme, quoi. C'est comme s'il avait un décompte pour nos vies qui arrive au moment fatidique. Et c'est important de vraiment cette idée de temps et de notre rapport au temps et de notre rapport au temps qui nous est donné dans la vie et le temps que nous avons à notre disponibilité. C'est vraiment quelque chose d'important. Un des psaumes 90:12 qui dit: enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et c'est quelque chose qui ressort dans beaucoup de passages dans la Bible, cette idée de prendre, de s'en rendre compte de l'importance du temps que nous avons et du temps qui nous est donné par Dieu. Et qu'il y a un décompte et qu'arrivé le moment où Dieu dit maintenant c'est fini, il n'y a rien à faire. Et notamment, on a dans le prophète Jérémie qui parle de Babylone et du fait que Dieu va utiliser Babylone pour juger son peuple. Il lui dit que le peuple va être déporté et que Babylone va être jugé quand les jours seront arrivés à leur terme. Et il y a ce sentiment, encore une fois, de Dieu qui est maître du temps et qui donne un certain temps. Et quand le temps arrive, les choses que Dieu a annoncées arrivent et il y a une fin et une autorité de Dieu sur le temps. Ensuite, donc le deuxième mot, c'est peser. Et cette idée que Dieu pèse les actions des hommes, et ça aussi c'est quelque chose qui apparaît dans les proverbes, dans les psaumes. Il y a un verset dans 1 Samuel 2, verset 3, qui dit: ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Et le dernier mot, cette idée, cette division, donc Dieu qui dit voilà, votre royaume va être brisé, va être divisé, va être donné à quelque chose de, à un autre royaume. Et c'est aussi l'accomplissement de ce qui avait été annoncé à Nebuchadnezzar avec cette vision et le fait que son royaume allait être succédé par un autre royaume et qu'il allait pas durer à jamais. Voilà. Et donc, la nuit même, nous dit le texte, verset 30, la ville tombe et Belshazzar est tué. Et alors d'après, encore une fois, ces historiens, Xénophon et Hérodote, parce qu'on se dit, bon, comment est-ce qu'ils ont fait pour prendre cette ville avec ses hautes murailles et ses fortifications? Et en fait, a priori, ce que nous disent ces historiens, c'est que ce roi Cyrus a carrément détourné le fleuve complet, l'Euphrate, a construit un barrage et a construit des canaux, creusé des canaux pour détourner tout le fleuve vers un lac en amont pour assécher le lit du fleuve et qu'ils sont passés ensuite en dessous dans les tunnels en fait, qui leur permettaient d'entrer dans la ville. Et on se dit, bon, bah, ils étaient en bas dans le lit du fleuve et ils sont rentrés dans la ville. Et d'après ces mêmes historiens, le lit du fleuve était tellement encaissé, il y avait vraiment des hautes murailles même autour du fleuve, mais il y avait des accès pour accéder au fleuve. Et comme ils étaient tous en train de faire la fête et de ne pas faire attention, ils avaient laissé ces entrées par la voie du fleuve non gardées. Ils n'avaient pas imaginé que le roi ferait quelque chose comme ça. Ils n'avaient pas idée de que ça pouvait être fait. Et donc, ils avaient laissé ces entrées non gardées. Ils avaient juste les gardes sur les murailles externes. Et donc, ils sont rentrés sans difficulté. Ils ont pris les gardes à revers. Ils ont fait entrer toute l'armée. Ils ont pu conquérir la ville quasiment sans résistance. Et là aussi, il y a un peu un parallèle avec la fin des temps et cette idée de chute brutale des empires des hommes. Quand le jugement de Dieu arrive dans Apocalypse 18:10, il est dit que l'empire de l'Antéchrist tombe en une heure. Devant Jésus et devant le jugement de Dieu. Et donc là, enfin, il y a quelques choses auxquelles on peut penser. Ici, on peut voir cet excès de confiance qu'avaient les Babyloniens en leurs murailles et en leurs fortifications et en leur solidité. La ville, les murailles, et on peut se poser les questions de savoir est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles on place notre confiance de manière mauvaise, de manière peut-être plus générale, et voyant aussi la réaction de Daniel. Enfin, la fin du verset 29 et le 30, il est intéressant parce que le roi, là, il lui dit, tiens, je vais t'élever dans un royaume, et le royaume, il est en train de s'écrouler, quoi. Il tombe la nuit même, quoi. Il vient de lui donner la position d'importance, mais le royaume, il n'existe plus 2 heures plus tard, quoi. Il y a cette idée de futilité, de non-importance complète de ces récompenses de ces trésors que Daniel pouvait peut-être convoiter. Ça faisait des années qu'il était mis à l'écart, peut-être, et il se dit, c'est mon occasion, Dieu, j'ai été fidèle à Dieu et Dieu me relève. Et il y a aussi, certains commentateurs disent que Daniel lisait sans doute les prophètes aussi et a vu que Jérémie disait que la déportation durait 70 ans et que donc lui s'attendait à cette fin et il voyait le temps arriver, et donc il le savait même en arrivant qu'il était à la fin de l'époque annoncée, et que donc c'était l'heure, quoi. Mais c'est important, ça nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu. On peut s'y tourner dans Matthieu 6, parce que vraiment, il y a ce parallèle avec nous dans le monde. Mais dans Matthieu 6, versets 19 à 21, ce passage qu'on connaît bien, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on peut vraiment se poser la question, quels sont les trésors, les choses qu'on recherche, qu'on convoite, et de se rendre compte que le monde dans lequel nous vivons et notre vie passe aussi vite que cette heure entre le moment où Daniel est à annoncer ces choses et où la ville est tombée. Ça m'a fait réfléchir. Ces derniers jours, je passais un peu de temps à essayer de faire des sauvegardes de mes photos et de se dire j'ai passé le bac il y a 10 ans, quoi. Enfin, ça file, quoi. J'imagine pour mon père, enfin, de la vitesse à laquelle ça passe, quoi. Et quand on arrive, on se dit, mais c'est... J'ai des gens qui m'ont contacté il y a quelques semaines sur Facebook, je sais pas comment ils m'ont trouvé, mais parce que j'ai pas mon nom, mais qui m'ont contacté, c'était des gars avec qui j'étais au lycée, quoi, mais je me souvenais plus si c'était au collège ou en prépa, ou c'est déjà tout flou, quoi. Enfin, et vraiment notre monde et notre vie, ça passe, et il y a cette futilité de toutes ces choses dans le monde et toutes ces choses qu'on peut convoiter. ses positions d'importance, les richesses, les biens matériels, l'importance dans la vie, l'argent.
Dans les téléphones, il faut
très
préciser.
Parce que... On se dégomme. On se dégomme.
Oui, mais tout.
On se dégomme.
Après, ça ne veut pas dire que ces choses soient mauvaises en elles et que Dieu ne veut pas qu'on ait. Veut pas non plus nous bénir, et ça veut pas dire qu'il faut absolument vivre dans un dénuement total, à manger de l'herbe et rien faire. Mais c'est une question de savoir où est notre cœur et où est l'importance dans, est-ce que ces choses prennent le pas sur notre relation avec Jésus ou pas? Est-ce que ce sont les choses importantes ou pas? Est-ce que c'est les choses dans lesquelles on investit du temps ou pas? Est-ce que c'est les choses si c'est une question entre notre carrière et l'Église, entre notre temps pour Jésus et le temps pour travailler, s'il y a cette lutte, alors il y a un problème. Il y a aussi cette idée que Dieu nous donne une position d'importance dans son royaume, qu'il faut qu'on se rende compte de la réalité de ça, qu'on a une place dans le corps qu'est l'Église, et qu'il y a une place et qu'on a une importance dans sa famille. Il faut qu'on en soit conscient aussi et qu'on l'accepte et qu'on l'embrasse pour notre bien, pour lui obéir et aussi pour le bien de l'Église et des gens autour de nous. Voilà.